se retrouve dans la situation du premier... Silence. Transfiguration. Entendez le chant du violon. Voilà, ça dure encore quelques minutes, c'est absolument merveilleux. Et c'est bien dommage de ne pas l'écouter en entier, mais vous l'avez entendu. Je vous recommande vivement d'acheter le disque et de le réécouter 1000 fois. Parce que, d'ailleurs, Beethoven disait, à propos de ce quatuor, il faut l'écouter souvent. Je pense, comme le 16e d'ailleurs, c'est un quatuor plus difficile que les autres, en fait. Parce que le 15e, le 13e et le 14e dans l'ordre, qui sont les quatuors les plus massifs, les plus admirables, visiblement, disons, les plus spectaculaires, sont peut-être justement moins difficiles à écouter en fait et à comprendre que ceux-là qui sont plus secrets, le 12e et le 16e. Alors on va passer à l'opus 132, mais alors je ne suis pas sûr qu'on puisse dépasser l'opus 132, hein, c'est ce que je vois. Je reviendrai en troisième semaine. Donc l'opus 132, alors je vais aller plus vite, donc disons que c'est le premier quatuor dans lequel Beethoven se pose un problème d'architecture en se disant la forme sonate, l'architecture de sonate, ce n'est pas la panacée, il faut trouver autre chose. Et alors, ce qu'il va trouver, c'est la forme en arche qui va inspirer infiniment les compositeurs du XXe siècle et notamment Bartok. Alors, forme en arche, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire deux choses. Ça veut dire symétrie des mouvements, c'est-à-dire les mouvements vont se répondre, notamment ici, le premier mouvement et le final. Le premier commençant par une introduction lente que Romain Rolland, où se trouve un thème de 4 notes, ces fameuses notes emblématiques qui vont parcourir tous les derniers quatuors, qu'on trouve dans le trio du 12e de manière, en germe, de manière embryonnaire, mais qui vraiment sont énoncées ici pour la première fois. On ne les entendra pas, mais c'est en gros, c'est... Voilà, c'est ces notes-là, et qui en fait, avec un grand intervalle au milieu, mais qui, au point de vue de leur structure musicale, sont simplement un segment de gamme descendante mineure, et organisée d'une certaine manière. Et ces 4 notes vont être réorganisées de manière différente dans chacun des derniers quatuors, et à partir de ces 4 notes, Beethoven va construire ses immenses architectures. Donc c'est ce motif-là qui sous-tend en fait l'ensemble des 4 mouvements qui se répondent 2 à 2 de l'arche. Donc ici, on va passer d'un mouvement dramatico-lyrique dans lequel l'objectif Beethoven, c'est d'aller vers une coda dramatisante, fulgurante de dramatisme, et à la fin, à partir du même élément sous-jacent, aller vers une coda qui, au contraire, sera une coda de rayonnement joyeux. Et d'ailleurs, encore une fois, Romain Rolland parle à ce propos de la danse, d'une danse chez les Capulet. Et donc, et effectivement, c'est dans la coda, mais on part de très loin, on part d'une situation de crise et d'angoisse. Les scherzos répondent aussi, mais on n'a pas le temps d'en parler, mais ce dont je veux parler essentiellement, c'est du mouvement lent, le fameux Dank des Anges, c'est un chant de reconnaissance à la divinité dans le mode lydien, que Beethoven a écrit après une longue maladie, enfin une grave maladie, qui a fallu l'emporter en 1825, et comme il a survécu, il a eu envie d'écrire un mouvement en hommage, en remerciement à Dieu qui, pensait-il, l'avait aidé à guérir. Et il a écrit un mouvement qui est structuré de la manière suivante. Le mouvement va opposer trois chants de reconnaissance, un en bleu ici, qui sont écrits, le premier, en particulier le premier, qu'on fait, selon une logique de bloc, comme dans la Missa Solemnis. Logique de bloc, c'est un mot que j'ai employé plusieurs fois, que vous devez trouver sibyllin, mais j'espère que vous allez comprendre de quoi il s'agit. Ça veut dire simplement que des blocs verticaux s'opposent, chacun étant caractérisé par quelque chose de particulier du point de vue expressif et du point de vue musical, disons. Et alors que dans la musique traditionnelle, le flot musical coule. Donc ici, vous avez des blocs qui s'opposent, c'est différent. Donc, logique de bloc ici. Alors, justement, ce sont des blocs verticaux. Ici, d'une certaine manière, Beethoven renverse sa copie et fait plutôt de l'horizontal que du vertical. Et là, il va faire du contrapuntique, mais toujours avec le même matériau de base. Alors, pris en sandwich entre ces trois blocs, ces trois grands blocs, faits eux-mêmes de petits blocs de reconnaissance à les divinités, Beethoven va insérer deux autres blocs, mais qui sont beaucoup moins écrits selon une logique de blocs, qui s'appellent, que Beethoven a intitulé, qui sont des ententes, et que Beethoven a intitulé, en haut desquels Beethoven a noté, Neue Kraft Fühlend, en sentant des forces nouvelles. C'est-à-dire qu'il a vraiment voulu rendre compte de la situation d'un malade qui guérissait, qui reprenait peu à peu des forces. Et alors, on va commencer par écouter ça. C'est tout à fait étonnant parce qu'on écoute juste le début, mais la musique, véritablement, va vivre elle-même cette renaissance. Et vous allez voir, notamment avec des grands sauts intervalliques, comme si le convalescent mesurait ses forces pour voir s'il pouvait bouger dans l'espace. Donc d'abord de grands mouvements dans l'espace, ensuite on n'entendra pas des trilles, et puis des textures, encore une fois buissonnantes, qui montrent un Beethoven, le bien-être, un lyrisme du bien-être, le lyrisme de la convalescence. Alors écoutons, pour commencer, uniquement les forces nouvelles. Vous avez vu le principe, hein, vous écouterez chez vous. Et maintenant, on va passer à la chose la plus extraordinaire, sans doute, parmi les plus belles choses que Beethoven ait écrites, donc le mouvement, ce fameux adagio. Et alors, ces trois adagios, alors, je vais d'abord, avant de vous les faire écouter, je vais vous montrer mon plus beau dessin. En couleur, ça a l'air compliqué, mais c'est tout simple. Et je crois que, j'espère que ça vous aidera à comprendre. Je crois qu'on s'arrêtera après ça. Je ferai écouter bien sûr, à mon avis, malheureusement, il est déjà l'heure. Donc, je suis désolé pour les autres quatuors, mais il faudrait faire une autre conférence. Alors, donc, trois formes. Le premier, donc, il y a une logique de bloc en ce sens que, à cinq reprises, va s'opposer une prière faite de noir, que j'ai représentée en rouge ici, huit noirs égales, qui entrent en imitation. Chaque fois de manière différente, ici violon 1, puis violon 2, puis alto, puis violoncelle. Et puis, à cette prière en imitation, répond un choral en blanche, huit notes aussi, et avec une impression de grand hiératisme. Donc, si vous voulez, on peut très bien, mais ça, on peut imaginer ce qu'on veut, mais on peut dire que c'est une conversation entre l'homme qui remercie, qui prie, et Dieu. Bon, si on veut, enfin, on peut imaginer ce qu'on veut. En tout cas, il y a une grande force dialogique là-dedans. C'est-à-dire que, vraiment, bien que ce soit dans une écriture apparemment toujours la même, quatre voix qui se répondent, globalement, vous avez un côté des imitations, ensuite de l'homophonie, et donc vous avez l'impression de deux structures qui dialoguent. Et ça va se répéter cinq fois. 1, 2, 3, 4, 5. Mais ça se répète chaque fois différemment, donc les imitations sont jamais dans le même sens. C'est ce que je voulais représenter avec les différentes formes de ces petits trapèzes. Et puis, pour chaque fois, vous avez, bien sûr, le choral lui-même est assez blanc, et puis, malgré tout, est souligné par des crescendo ou des mouvements d'intensité. Et globalement, l'ensemble du premier choral décrit une arche au point de vue sonore. On part du piano, on passe par un forte ici, et on redescend au piano. Et alors, comme dans l'opus 127 tout à l'heure, qu'est-ce qui se passe? Le fameux choral, c'est-à-dire la partie rouge, commence à une certaine hauteur. Ici, c'est un fa grave, enfin médium, ici. Et alors, je le dis tout de suite pour ne pas l'oublier. Et à chacune des réexpositions de la fameuse partie du champ de reconnaissance, le fameux corail va monter dans l'espace. Donc la première fois, la deuxième fois, il monte. Vous voyez, il passe au, c'est un fa plus aigu, une octave plus haut, et Beethoven en plus va faire une petite modification rythmique. Je vous disais au début, vous avez neuf noirs. Ensuite, donc, ta, di, ta, ta, et ensuite, ta, di, ta, di. Donc il introduit une croche. Et pour la troisième fois, il va monter encore plus haut, mais pas au début, au moment de la culmination, avec un fa suraigu ici, qu'on entendra, et puis la croche devient une double croche. Donc, et alors, ici, ce que je n'ai pas dit, c'est que dans cet exemple-là, dans le deuxième adagio, le choral lui-même se mélange un peu. Enfin, le choral va être confié, excusez-moi, seulement au violon qui surplombe une sorte de texture qui est faite des éléments de la prière et puis de nouveaux éléments. Et notamment, je vous les montrerai en passant l'exemple, l'ensemble de la mélodie est porté par des sauts d'octaves violoncelles qui sont comme des sortes de piliers mystiques qui portent la mélodie. Comme le premier adagio, le deuxième est sous-tendu par un crescendo en forme d'arche. Et puis, la troisième reprise de l'adagio, Beethoven change complètement la donne. C'est-à-dire, au lieu de structurer son discours en cinq parties, comme il l'a fait ici ou là, et chaque fois selon des modalités différentes, ici, il le structure en trois parties, avec une écriture contrapuntique, et chaque partie ce grand ensemble étant fait, j'ai mis ici d'un prélude, d'un développement, une retombée, et chacune de ces phases est elle-même structurée de cette manière-là. Prélude, développement, retombée. Alors, je n'ai pas le temps d'expliquer en détail, mais en gros, c'est tout à fait fascinant. C'est une structure qu'on pourrait appeler récursive si on était prétentieux, mais certains ont parlé de fractal, peu importe. Mais en tout cas, c'est tout à fait admirable, c'est tout à fait étonnant. Et je n'en dis pas plus long, je voudrais avoir le temps de vous faire écouter ça. Je crois qu'on l'a tout juste. Alors, je vais bien sûr vous montrer les exemples musicaux. Alors, j'ai oublié de vous montrer le premier, mais ça c'était l'andante que vous avez vu tout à l'heure. Donc avec, ici, avec le tri, les sauts d'octave, bon, les grands soins thermaliques. Bon, alors je passe maintenant au premier d'Anglesang. Ça commence là, c'est le choral ici. Crescendo, terminal, on revient à piano. Deuxième séquence qu'on n'écoutera pas et on passe au deuxième moto adagio. Alors vous voyez, la structure est différente ici. La croche. Le chant du violon, c'est l'équivalent du choral. Les fameux piliers mystiques du violoncelle en bas. Chaque note est portée par le violoncelle. Alors maintenant, le troisième choral. Donc vous voyez, c'est tout à fait différent. Là, on est vraiment, on entre en imitation, mais on est dans une écriture contrapuntique, double croche. voyez que ça se complexifie beaucoup, point de vue écoute. Là, c'est le second violon qui est le choral, pendant que le premier reprend le chant. Je n'ai pas le transparent l'exemple pour la partie suivante, qui est la culmination, tout en haut. Et j'arrête juste une seconde, on terminera là-dessus, parce que je ne sais pas si on peut parler après ça. Donc Beethoven atteint ce que j'ai défini dans mon livre comme une sorte de violence métaphysique. Et justement, vous entendrez que la mélodie du violon plane dans l'extrême aigu, et qu'au-dessous, c'est porté par une intensité fulgurante, très profonde et très puissante. Voilà, on va rester là, je suis désolé parce qu'il est 8h05, donc il est l'heure que vous rejoigniez vos places pour le concert. Je voulais juste vous signaler que demain, l'émission de la tribune des critiques de disques a lieu à 10h avec cette œuvre-là. Donc si vous avez le temps d'écouter...